Maseret Psachim daf Yud Aleph, on commence Bezrat Hashem ou daf Yud Amud Bet, en bas, à l'avant-dernière ligne. On avait vu que, selon Rabbi Yehuda, on vérifie le Chametz à trois occasions uniquement. Soit le soir du 14, soit le 14 au matin, soit au moment où il faut brûler le Chametz, mais plus après. Pourquoi on ne fait plus après le 14 Chametz? Celui qui n'a pas fait, il ne doit plus faire. On craint qu'en trouvant du Chametz, il risque de le manger. La Gemara vient maintenant objecter cette svara-là, cette idée-là de dire que selon Rabbi Yehuda, on doit craindre qu'il risque de manger le Chametz en le trouvant. La Gemara va ramener plusieurs exemples. On voit que Rabbi Yehuda ne craint pas ce genre de choses. Donc la Gemara ici, elle demande à l'avant-dernière ligne du Daf Yud, Amud Bet, en bas, Umi Gaza Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda, il décrète, il craint d'ilmat el emeich almine, de peur qu'il en arrive à manger de ce Chametz? Ve'atnan, nous avons une Mishnah qui dit, Mishekara va Omer, à partir du moment où on a sacrifié l'offrande de farine, d'orge, du Homer le 16 Nissan, Yotin ou Motin Shuke Yerushalayim, on sort et on trouve les marchés d'Yerushalayim, Shem Meleim, qui sont pleins de Kemar Vekali. De Kemar Vekali, donc ils sont pleins de farine, Kali c'est du blé grillé, Shelo Birtan Chachamim, Divrei Rabbi Meir. Et ça se faisait contre l'accord et la volonté des Chachamim, selon Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir pensait que puisqu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte avant le Homer, donc on n'avait pas le droit de récolter, de préparer cette farine-là avant le Homer. Donc ici, quand le marché il se remplit de farine immédiatement après qu'on a sacrifié le Homer, c'est bien des gens qui l'ont préparé, qui s'en ont occupé avant le Homer. Or, selon Rabbi Meir, c'était interdit. Ça devait être interdit parce qu'on craint qu'il risque d'en manger alors que c'est encore interdit, puisque la nouvelle récolte elle était encore interdite jusqu'à ce qu'on a sacrifié le Homer. Rabbi Yehuda Omer, Bitan Chachamim Ayosim. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de problème, ça se faisait même avec l'accord des Chachamim. Et donc ici on voit que Rabbi Yehuda n'a pas craint. Velo Kagaza Rabbi Yehuda, Dilmat Ilemei Chalmine. Ici Rabbi Yehuda n'a pas décrété, il n'a pas interdit de peur qu'il risque d'en manger. Il a permis de récolter, il a permis de préparer cette farine-là, de faire toutes les étapes du blé pour préparer la farine. Et donc on voit qu'on n'a pas à craindre qu'il en mange. Pourquoi est-ce que dans le Chametz, Rabbi Yehuda craint qu'il risque d'en manger? Répond la Gemara, première réponse à Marava, ou Rabba selon une autre version. Shani Chadash, le Issour Chadash, le Issour de la nouvelle récolte, l'interdiction de manger la nouvelle récolte est différente du Chametz. Mitor Sheloï Tartalo, elle a les deux qui touffent, puisqu'on ne lui a permis de récolter que avec sa main, et pas avec les outils habituels. Ou Zahour, ça lui sert de siman, ça lui sert de rappel, comme quoi c'est interdit. Puisqu'on ne lui a pas permis de récolter habituellement, de la manière habituelle et classique, eh bien il va se souvenir que c'est interdit de manger de cette nouvelle récolte, donc on ne craint pas qu'il en mange. Tandis que Chametz, il va le trouver, il va le manger. Amar le Abaye, Abaye a demandé à Rabba, Tenach Bishat Ktifa, ça va bien au moment où il récolte, c'est bon, il a son rappel, il fait avec la main, il se souvient. Trina Verkada Maïka Lemar, mais quand il vient moudre le blé ou bien le tamiser, qu'est-ce que tu vas dire à cette étape-là? Il risque d'en goûter? Répond la Gemara Lokashia, ça c'est pas une kashia parce que Trina Berechaya Deyad, là-bas aussi il fait un chinou, il fait un changement. Trina, quand il vient moudre le blé, il le fait avec un moulin Deyad, avec la main. Il vient le moudre avec la main, il travaille avec la main, alors que d'habitude, ils ont une machine. Arkadal Gabenapa. Et pour tamiser le blé, il retourne le tamis, et donc, à nouveau, il a à chaque étape un rappel, il vient récolter avec la main, il vient moudre le blé avec, encore une fois, avec un appareil qui se fait, un travail qui se fait à la main, alors que c'est pas un moulin qui se fait tout seul, avec le vent ou avec l'eau. Et enfin, pour tamiser, il le fait de l'autre côté, sur le, il retourne le tamis, donc à nouveau il a un rappel, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas à craindre. Tandis que pour le Chametz, on devrait craindre. Et là, Adetna demande à la Gemara, comment est-ce que tu vas comprendre la Mishnah qui dit Kotrin Betashlachim Vesheba Amakim? Il est permis de récolter. Betashlachim sont des champs qui sont arrosés à la main. Vesheba Amakim et les plaines. Ici, on a permis de récolter ces champs-là. Avalo Godshin, mais pas de faire des tas. Pas de faire des tas après la récolte. Vokimna ke Rabbi Yehuda, on interprétait que cette Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda, qui ne craint pas qu'il risque de manger de cette nouvelle récolte. Maïka lememar, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Tu vois bien qu'on a permis ici de récolter de la manière normale. On n'a pas dit qu'ils doivent récolter avec sa main. il peut utiliser les appareils habituels pour récolter. Et la Marabaye répond la Gemara. Il faut donner une nouvelle réponse. La raison pour laquelle Rabbi Houda n'a pas interdit à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, c'est parce que tout simplement, Chadash badiliminé, la nouvelle récolte, il s'en sépare. Il n'a jamais encore commencé à manger de la nouvelle récolte, donc tant qu'il n'en a encore jamais mangé, il a l'habitude de s'en séparer, il n'a pas encore l'habitude d'en profiter, donc ici on a moins à craindre qu'il risque d'en manger. Tandis que Chametz le badiliminé, le Chametz, il ne s'en sépare pas habituellement. Au contraire, il a l'habitude de manger du Chametz toute l'année. Arrive Pessah, il va trouver un morceau de Chametz, il va oublier, il va le manger. Il va le rentrer dans la bouche. Donc là, il faut craindre, il faut interdire de faire la bdikat Chametz après l'heure. Amar Rava, de Rabbi Houda, de Rabbi Houda Kashia. Est-ce que la contradiction, elle est à propos de Rabbi Houda uniquement, des Rabbanan et de Rabbanan au Kashia? Dans les Chachamim, on n'a pas de contradiction. Dans les Chachamim aussi, on a une contradiction. Parce qu'à propos de Chametz, on a trouvé une contradiction dans Rabbi Houda. Lui, il craignait à propos de Chametz, mais pas à propos de Chadash. Les Rabbanan, ils disent le contraire. À propos de Chadash, ils craignent. Ils n'ont pas permis. On a dit que les gens qui faisaient la farine, c'était contre la volonté de Chachamim. Donc, selon Rabbanan, qui est en machloket avec Rabbi Houda, donc c'est Rabbi Meir en fait. Selon Rabbi Meir, à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, on doit craindre. À propos du Chametz, ils disent de faire l'abdikat pendant Pessah, on ne craint pas qu'il en mange. Donc, finalement, on se trouve avec une contradiction dans Rabbanan aussi. Répond la Gemara. Elle est de Rabbi Houda, de Rabbi Houda, le Kashia. Dans Rabbi Houda, on n'a pas de contradiction que des Shaninan, comme ce qu'on a déjà répondu, que la nouvelle récolte, il a l'habitude de s'en séparer, donc on n'a pas à craindre qu'il en mange. Le Chametz, il a l'habitude de le manger, donc on craint qu'il en mange. De Rabbanan à de Rabbanan, mais le Kashia. La contradiction dans les Chachamim n'est pas une Kashia non plus. Pourquoi? Lui-même, il vient maintenant. À propos du Chametz, il est en train de rechercher le Chametz pour faire quoi? Pour le brûler. Ce qu'il a dans la tête maintenant, c'est que où se trouve le Chametz que je le brûle? Michalkach, il m'inait, est-ce qu'on a crainte qu'il oublie et qu'il risque d'en manger? Alors qu'ici, tout son intérêt, toute sa recherche, elle est avec un but de brûler le Chametz. Donc ici, on n'a pas à craindre qu'il en mange. Tandis que quand il va commencer avec le Chadash, la nouvelle récolte, il va commencer à faire de la farine et tout ça, là, il risque d'en manger. Ravashi Amar, autre réponse de la Gemara, de Rabbi Houda, de Rabbi Houda, le Kashia. Il n'y a pas de contradiction dans Rabbi Houda. Pour Chadash, Rabbi Houda ne craint pas. Pourquoi est-ce qu'il a permis dans la nouvelle récolte? Parce que Kemach Vekalit Nan, on a bien enseigné, la farine, Kemach Vekali, c'est la farine ou le blé grillé, qui n'est pas mangeable tel quel. Donc, il ne risque pas d'en goûter. Tandis que le Chametz, il va trouver un morceau de gâteau, il va le manger. Mais la Gemara repousse ces paroles de Ravashi. La Gemara dit va de Ravashi Brutai. Mduta ou Brutai. Ces paroles de Ravashi sont des paroles qui ne sont pas vraies. On a ici sur le côté une petite note du Masoret HaShas qui dit là-dessus. Masoret HaShas dit que cette expression-là de la Gemara qui dit Bdutai, elle se rapporte à chaque fois quand les Chachamim disaient une chose que la Gemara ne veut pas accepter. Donc le Masoret HaShas nous ramène quelques endroits. Vechen ita be Shabbat, kafzain, yevamot, kafalef, gitin pechet, baba batra kuf memez, vachim kuf, ita bduta. Dans tous ces endroits-là, la Gemara dit le mot bduta. Dans d'autres endroits que le Masoret HaShas cite ensuite, beram, baba metzia, quelques endroits, baba batra, menachot, kretot, ita bruta, beresh. Des fois c'est écrit bduta avec dalet, des fois c'est écrit bruta avec resh. Et le Masoret HaShas y continue en expliquant, ou bearuch, Arour, c'est le nom d'un livre d'un des Rishonim qui vient expliquer les mots difficiles de la Gemara. Erech bar dalet katav perush. Donc là-bas, le Arour, il écrit. Mais makom shetaur chachamim velo dibru kalacha. Lorsque les chachamim se sont trompés et ils n'ont pas parlé correctement selon la halacha. Loratzu leganotam. La Gemara ne voulait pas dire sur eux, s'exprimer sur avec un manque de respect. Velomar Taou en disant qu'ils se sont trompés. Et l'amrou Brutak, Lomar Datritoniti. Les Chachamim, la Gemara dit sur eux, Brutai, ça veut dire que c'est un avis extérieur. Extérieur, ça veut dire que ça ne rentre pas ici dans la Gemara. Donc on ne maintient pas les paroles de Ravashi qui a dit que la raison de Rabbi Houda de ne pas craindre à propos du Chadash, c'est parce que c'est pas mangeable, c'est de la farine. La Gemara, elle explique pour quelle raison on ne peut pas dire comme ça. On reprend dans la Gemara donc. Hatenach Mikali Ve'elar. Ça va bien à partir de l'étape où c'est déjà Kali Velar, c'est déjà de la farine. Mais Ikarad Kali Maïka Lemar. Mais depuis le début de la récolte jusqu'à ce que c'est devenu de la farine, qu'est-ce que tu as à dire? C'était mangeable. On peut manger des épis de blé tel quel. Veritemal et Dekitouf. Si tu veux dire, puisque la récolte s'est faite avec la main, alors il a un grand rappel, c'est pas du tout normal de récolter comme ça. Kederava, comme ce que Rava avait dit. Et la Kotrine Metashtachin Vesheba Makim. Eh bien, on a déjà repoussé cette explication. On a dit, on a bien vu qu'il est permis de faire, de moissonner dans les champs de Betash Lachin qui sont arrosés à la main. Mais chez Bahamakim ou dans les plaines, Vokimna ki Rabbi Yehuda, on a interprété cette halakha comme Rabbi Yehuda. Mai Ika Lememar. Qu'est-ce qu'on dira là-bas? Là-bas, il fait une récolte classique, normale. Il n'a aucun rappel. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda permet là-bas? Elle a des Ravashi Bdutai. Donc, finalement, les paroles de Ravashi sont, c'est un avis extérieur. Et en principe, il faudrait donc donner une autre réponse pour Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Yehuda qui ne craint rien à propos du Hadash, c'est tout simplement parce que, comme on a dit, il n'a pas l'habitude de manger de la nouvelle récolte encore. Il a l'habitude encore de s'en séparer. Et donc, on n'a pas à craindre. Tandis que Khamet, au contraire, il a l'habitude de manger, donc il faut craindre qu'il risque d'en goûter. Verami de Shabbat à Shabbat. La Gemara dit que on a une contradiction maintenant. Non, j'ai sauté quelques lignes. Vecholecha. Je continue dans la Gemara là où on en était. Vecholecha de lo bad éliminé. Est-ce que partout où il n'a pas l'habitude de s'en séparer? Donc, est-ce que ici on va dire toujours que Migazar Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda vraiment il est gozer, il interdit? Il craint qu'il risque de faire la vera. Ve'atnan, nous avons une Mishnah dans Shabbat qui dit, lo yikov adam shofer et shelbetza. Un homme n'a pas le droit de faire un trou dans une coquille d'œuf. Vimalena shemen et de remplir d'huile. Vitelena beta daner et de laisser ça à côté de du récipient, donc de la bougie, de la flamme, de la mèche. Bishvili shetemena tefet. Afin que par le trou sortent toujours des gouttes d'huile et que ces gouttes-là, elles viennent alimenter la mèche de manière à ce que la flamme tienne plus longtemps. Et donc ça s'interdit de le faire même avant Shabbat, parce qu'on craint qu'il risque pendant Shabbat de prendre sa petite cuillère, de rentrer dans la coquille d'œuf, de prendre de l'huile de là-bas pour assaisonner sa salade. Celui qui fait ça, il est en train de faire la melacha d'éteindre. Ça s'appelle éteindre. Puisque maintenant il y aura moins d'huile, ça s'appelle aussi éteindre, c'est interdit. Et donc les chachamim ont interdit a priori d'alimenter la mèche de cette manière-là. Parce qu'on ne voit pas trop le lien entre l'huile et la mèche. Donc de cette manière-là, c'est interdit. Même si ce n'est pas une coquille d'œuf, c'est un récipient d'argile qui est très désagréable à toucher, à goûter de là-bas de l'huile, parce que ça paraît pas bon, ça s'abîme, ça devient répugnant. Et malgré tout, selon Tanakama, selon ici c'est cette Mishnah, c'est interdit de le faire, parce qu'on craint toujours qu'il risque de se servir de l'huile. De Rabbi Yehuda Mati, Rabbi Yehuda ne craint rien, il permet. Donc voilà que Rabbi Yehuda ici, il est en train de permettre, alors qu'un homme a l'habitude de prendre de l'huile pour assaisonner sa salade. Et malgré tout, Rabbi Yehuda ne craint pas que pendant Shabbat, il risque de le faire. Donc pourquoi est-ce que, tu vois bien ici, quelque chose même dans un cas où on a l'habitude de le faire, Rabbi Yehuda ne craint pas, pourquoi est-ce que dans Chametz il craint, oui? Répond la Gemara, Hata Mishum Chumra de Shabbat, là-bas, à cause de la Chumra, de la gravité de Shabbat, Mivdal Bdile, les gens s'en séparent, ils font attention, pendant Shabbat les gens, ils font plus attention à ce qu'ils font, et donc il ne va pas facilement, même par erreur, en arriver à se servir de cette huile-là. Rabbi Yehuda ne craint pas ça. Verami de Shabbat à Shabbat. La Gemara pose maintenant une contradiction dans Shabbat même. Détaillé quand nous avons une vraie qui dit à propos de Shabbat. Chéved li shenifsak, la ficelle, la corde d'un seau qui s'est déchiré, qui s'est coupé. Loye koshro, il n'a pas le droit de faire un nœud. Et la onvo, il fait un nœud qui n'est pas un nœud pour toujours. Il fait un kesher aniva, comme on a vu dans les dapim précédents, c'est un nœud qui est temporaire. Et ça, c'est permis de faire selon Tanakama. Rabbi Yehuda, il interdit même ça. Rabbi Yehuda Omer, Korech alav punda opsakia. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les deux parties de la ficelle, les deux parties de la corde du seau, et il les enveloppe, il les entoure, il fait beaucoup de tours avec sa ceinture, c'est punda, ou psakia, c'est une ficelle qui sert à attraper les chaussettes. Ou bilvat choleyan venu, mais à condition mais surtout pourvu qu'il ne fasse pas même un nœud de aniva, qui était permis selon Tanakama. Donc on voit que Rabbi Yehuda il craint, il interdit de faire l'aniva, de peur qu'il en arrive à faire un vrai nœud. Donc voilà ici, Rabbi Yehuda, même pendant Shabbat, il interdit. Rabbi Yehuda, il dit pas, pendant Shabbat, les gens, ils font attention, on n'a pas à craindre. Voilà, on a eu à craindre. Rabbi Yehuda, il interdit de faire même une aniva. Donc, cachet de Rabbi Yehuda. Voilà une contradiction dans Rabbi Yehuda. Et cachet de Rabbanan et de Rabbanan. Une contradiction dans les Chachamim aussi, parce que ici, les Chachamim, à propos du nœud, ils ont permis de faire une aniva, un nœud temporaire. Tandis qu'à propos de la coquille d'œuf, les Chachamim ont interdit de laisser là-bas de l'huile. Répond la Gemara. De Rabbanan à Rabbanan, lo kashia. Dans les Chachamim, il n'y a pas de kashia. Shemen beshemen michlaf. Les gens vont confondre de l'huile avec de l'huile. Ils vont dire, je me sers de l'huile. Quelle importance si je me sers de l'huile, de ma bouteille d'huile ou de la coquille d'œuf? Ils vont pas faire attention. Et donc, il faut interdire. Aniva bekshira lo michlaf. Tandis que, faire un nœud comme ci, ou un nœud comme ça, c'est différent. Donc, le nœud qui est permis, il est permis. Faire un nœud temporaire, un nœud spécial qui se fait facilement, légèrement, et qui est un nœud de aniva, ça c'est permis. Les gens ne vont pas en arriver de là à faire un vrai double nœud. Donc on n'a pas ici à craindre. C'est une autre action, c'est un autre nœud. Tandis que prendre de l'huile d'ici ou de là-bas, c'est la même huile, ça revient au même. Ici, les gens vont, oui, se tromper, vont confondre, et ils vont en arriver à faire une melara pendant Shabbat. Donc à propos de l'huile, on interdit. Pour l'huile, c'est interdit. Pour le nœud, c'est permis. Ça, c'est les Chachamim. De Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, le Kashia. Dans Rabbi Yehuda, on n'a pas non plus de contradiction. Tama de Rabbi Yehuda, lav mishum de gazar, aniva tukshira. La raison de Rabbi Yehuda n'est pas parce qu'il décrète et qu'il interdit la aniva de peur qu'il en arrive à faire un nœud. On a déjà dit, Rabbi Yehuda ne craint pas pendant Shabbat, les gens, ils font attention. Et la mishum de gazar, aniva, gufa, keshirai. La raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense que la aniva elle-même est considérée comme un nœud interdit pendant Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, même un nœud du genre aniva, il est aussi interdit pendant Shabbat. Donc Rabbi Yehuda l'interdit. Pas parce qu'il décrète, qu'il craint. On ne craint pas selon Rabbi Yehuda. Simplement, c'est la vera elle-même. L'aniva est interdite en elle-même. Des ramis des rabbanan à drabanan. La Gemara continue à poser une contradiction dans les chachamim eux-mêmes. D'Etnan, on voit encore une Mishnah qui dit Kosherin dli bepsakia avalo bechevel. On a le droit d'attacher un seau avec psakia. Psakia, c'est, comme on a dit, c'est la ficelle qui sert à attraper les chaussettes. Avalo bechevel, mais on n'a pas le droit d'attacher un seau avec une corde. Parce que la corde, c'est un nœud qui sera un nœud shel kayama, un nœud définitif qui va rester là-bas tout le temps. C'est un vrai nœud. Tandis que quand on le fait avec psakia qui sert plutôt pour s'habiller ou plutôt pour d'autres choses, alors ça ne sera pas un nœud définitif, c'est un nœud temporaire qui est permis. Donc voilà ici une Mishnah qui permet d'attacher un seau avec psakia comme on a dit. Donc c'est cette petite ficelle, mais pas avec une corde. Et Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda il permet même avec une corde. Chevel de maille, de quelle corde il s'agit? Il est ma chevel de alma, c'est une corde classique. De Rabbi Yehuda matir, est-ce que Rabbi Yehuda va permettre de faire quoi? D'attacher un seau avec une corde? Kesher shel kayama, ou c'est un nœud définitif? On n'a aucune raison de permettre ça. De vadayati levatule. Nous sommes tous certains qu'il va laisser le nœud là-bas. Il va l'annuler. L'annuler, ça veut dire, il va le laisser tel quel. Et il va pas le corriger. Il va pas le changer. Il va le laisser comme ça. Donc ça devrait être interdit. Et la pshita, de gardi. Donc quand on parle ici d'une corde, on est en train ici de dire une ficelle des tisserands, il en a besoin pour son travail, pour tisser, il a besoin pour son travail et donc il va l'enlever de là-bas. C'est pas un nœud définitif et là Rabbi Yehuda il permet. Il permet même avec la ficelle. Vegazru Rabbanan, les Chachamim ici on voit qu'ils ont permis Chevel de Gardi à tout Chevel de Alma. Ils ont interdit cette ficelle-là de ce tisseur de peur qu'il en arrive à prendre une corde habituelle qui est interdite. Donc on voit que selon Chachamim, il faut faire ici une gzera. Comment ça se fait que les Chachamim ont permis de faire une aniva, un nœud temporaire, et ils n'ont pas interdit de peur qu'il en arrive à faire un vrai nœud définitif. Tandis qu'à propos de la ficelle, on voit que les Chachamim n'ont pas permis, ils ont interdit même la ficelle du tisseur. Répond la Gemara. In. Chevel bechevel michlaf. Oui, effectivement, c'est pas une contradiction. Les données sont vraies. Toutes les données sont vraies. Ici, il faut interdire. Ici, il faut permettre. Pourquoi? Tout simplement. Chevel bechevel michlaf. Une ficelle avec une ficelle, ça se confond. Si tu permets cette ficelle-là, ou en principe, en général, le nœud est temporaire, ils vont en arriver même à prendre une ficelle normale, ou le nœud est définitif, donc il faut interdire. Tandis que Aniva Bekshira le Michalfa, un nœud de Aniva, il est différent d'un nœud définitif, d'un vrai double nœud, et les gens ne vont pas confondre les cas, et donc là-bas, on n'a pas à interdire. Demande à Gemara, le Cholecha débat d'éliminer, est-ce que vraiment partout où l'homme, il se sépare de la chose, il fait attention à ce qu'il fait, le Gazar Rabbi Uda ne décrète pas, comme on a vu ici, on a vu qu'à propos de Khadash, à propos de Shabbat, selon Rabbi Uda, on ne fait pas de Xera. Simplement, dans Shabbat, Rabbi Uda, il a interdit la Aniva parce qu'il pense que c'est un nœud qui est interdit en soi. Mais des Xerot, il ne fait pas pendant Shabbat, comme on a vu à propos de l'huile, que selon Rabbi Uda, c'était permis. L'huile était permise. Et on ne craint pas qu'il risque de s'en servir. Donc finalement, Rabbi Uda, partout où un homme a l'habitude de s'en séparer comme Khadash ou Shabbat, Rabbi Uda ne décrète pas. Demande à Gemara. Ve'atanya, nous avons une vraie qui dit. Bechor shechazodam, un bechor. Bechor, c'est un veau premier-né ou un agneau premier-né. Il a de la kedusha et on n'a pas le droit de lui mettre un défaut. Le Kohen n'a pas le droit, le Kohen reçoit ce bechor et une fois que le bechor aura un défaut, le Kohen aura le droit de le manger. Avant qu'il ait un défaut, le Kohen doit le sacrifier. Voilà que le Kohen a reçu un bechor. Shechazodam, cette fois-ci, le bechor, il a une maladie. Il a trop de sang, il risque de mourir. Et le Kohen, il veut maintenant lui enlever un surplus de sang. Afiluhu met, en makizin l'odam, divrei Rabbi Uda. Même si le Bechor, il est en train de mourir, il risque de mourir, il n'a pas le droit de s'en occuper, il n'a pas le droit d'enlever son sang, son trop de sang, selon Rabbi Uda. Parce qu'on craint qu'il risque de lui faire un défaut. Bachachamim omrim yakiz, ou bilvat shelatil bomum. Selon Chachamim, il peut lui enlever le sang, mais en faisant attention de ne pas faire un défaut. Donc voilà ici. Le Bechor, c'est quelque chose que la personne s'en sépare. Le Kohen, il fait attention. Il va pas, il n'a pas l'habitude. C'est pas qu'il a l'habitude de manger de ce Bechor. Au contraire, le Bechor, il est mis de côté. Il est toujours isolé, il est mis de côté. Attention, c'est le Bechor. Il risque pas de, facilement, selon Rabbi Uda, on ne devrait pas craindre qu'il risque de mettre un défaut dans le Bechor. Pourquoi est-ce que Rabbi Uda interdit de lui sortir son sang? Répond la Gemara Atam. Là-bas, Amitor, Shadam, Bahoul, Almamono, on tourne la page. Puisqu'un homme, il est un peu affolé pour son argent. Amrinan on dit que Isharit le Bemakom Shanosin Bomum, si tu lui permets de prendre le sang d'un endroit où ça ne va pas faire de défaut, Atelemeavad Bemakom Shanosin Bomum, il risque de faire cette opération-là à un endroit où ça va lui causer un défaut, et donc, puisqu'il est affolé, il ne fait plus attention, donc on lui interdit tout, et puis c'est tout. On lui interdit tout, il ne prend pas, il ne touche, ne tripote pas ce Bechor du tout, de manière à ne pas en arriver à faire un défaut dans le Bechor. Donc finalement, la réponse ici, elle est basée sur une idée qui dirait, un homme est affolé pour son argent, et là-bas, on doit lui craindre. Les Rabbanan, que répondent à ça les Chachamim? Pourquoi est-ce que les Chachamim ne craignent pas ça? Pourquoi est-ce que les Chachamim lui ont permis, lui, de s'occuper de son Bechor, alors qu'il risque de faire un défaut tant qu'il est affolé pour sauver la vie de son Bechor? Répond la Gemara, Kol Sheken, au contraire, c'est justement ça la raison. Dehilo charit l'éclal, que si tu ne vas pas lui permettre du tout de s'occuper de son Bechor, Atile Me'avad, lui, il ne va pas faire attention à ce qu'il fait. Il dit, écoutez, bon, mon Bechor, il est trop affolé. Il ne va pas se laisser faire, il ne va pas laisser son Bechor mourir. Il va aller, il va s'en occuper, il ne va plus faire attention maintenant de ne pas lui mettre un défaut. C'est pour ça qu'a priori, on lui dit, écoute, va t'en occuper, mais attention. Attention à ce que tu fais. Et là, il va se calmer, il va faire attention. On préfère ça encore que de le laisser agir tout seul en lui disant que tout est interdit, et là il va tout faire. Il va faire même ce qui est pour de vrai interdit. Oumi Amrina demande à Gemara. Oumi Amrina le Rabbi Uda d'Ambaoul al-Mamono. Est-ce que selon Rabbi Uda, on tient qu'un homme, il est affolé pour son argent? Ve'atnan. Pourtant, on a une Mishnah qui dit Rabbi Uda Omer, En mekardina bema biyom tov. On n'a pas le droit pendant yom tov. Pour un homme dont la bema, sa vache, elle a de la boue qui durcit, qui a séché sur sa vache, et il faut la frotter. Il faut la frotter. Donc, il y avait un peigne avec des dents très fines, et un autre avec des dents plus épaisses. On n'a pas le droit de le faire pendant le Shabbat pour nettoyer, frotter la BMA. pour lui enlever toute cette boue-là qui a séché, qui a durci sur la béma, ça l'a raffaibli. Mipne, c'est ce qu'on appelle donc en mekardin abema biyom tov, c'est interdit de le faire pendant yom tov. Mipne shu ose chaboura, car ça va blesser, ça va faire saigner la vache. Aval mekard sefin, on peut le faire avec en tant que kirtsouf. L'agma va expliquer que kirtsouf, c'est des dents plus épaisses qui ne font pas se saigner. Vachachamim omrim en mekardin, af en mekard sefin. Selon Chachamim, on fait ni kiroud ni kirtsouf. Donc selon la correction, c'est pas en mekadrin mais en mekardin. Donc on n'a pas le droit de faire ni avec ni système kiroud ni système kirtsouf, ce que l'agma va expliquer immédiatement. Betania ezo kidur vezo kirtsouf. Qu'est-ce qu'on appelle kidur? Qu'est-ce qu'on appelle kirtsouf? Kidur ktanim vosin chabura. Bon, là, je lis tel que c'est écrit chez nous dans la Gemara, sans répéter la correction à chaque fois. Donc, kidur ktanim vosin chabura. Kidur, ce sont les dents du peigne qui sont fines et qui blessent. Kirtouf gdolim vosin chabura. Tandis que kirtouf, ce sont des dents qui sont plus épaisses et qui ne blessent pas, qui ne font pas saigner. Donc, ici, on a une machloquette. Est-ce que on interdit tout ou bien on permet ce qui ne fait pas saigner? Donc finalement, selon Rabbi Yehuda, ce qui ne fait pas saigner, c'est permis. On n'est pas gozer, on ne craint pas. Donc tu vois ici que Rabbi Yehuda ne pense pas qu'un homme est affolé pour son argent, il va faire n'importe quoi. Selon Rabbi Yehuda, ici, on lui permet ce qui est permis, on lui interdit ce qui est interdit. Comment ça se fait qu'à propos de Bechor, on avait dit un homme est affolé, il va faire n'importe quoi, il faut tout lui interdire? Répond la Gemara. Répond la Gemara. Hatam, là-bas, c'est différent. De Ishavik le Maït. Là-bas, s'il le laisse, son Bechor tel quel, il va pas s'en occuper, il va mourir. Donc là, je dis, Amrinan, Adam Baoul Alamono. C'est là-bas, on dit qu'un homme est affolé pour son argent. Donc le Kohen qui veut sauver son Bechor, il risque de mettre un défaut. C'est pour ça qu'on lui dit, ne le touche pas. Hacha, tandis que ici, à propos de la boue sur la BMA, sur la vache, Ishavik le, s'il la laisse comme ça, Tarabe Almaou. Ça va la gêner, ça va la raffaiblir, ça va lui faire mal. Mais pour ça, l'homme rinan adam baoul alamono. On ne dit pas pour ça qu'un homme est affolé pour son argent. Dans ce cas-là, un homme, il garde sa tête et il fait attention à s'en occuper que de manière permise, à ne pas faire quelque chose qui est interdit. Donc là, Rabbi Yehuda va dire, on permet ce qui est permis. Donc si ça ne blesse pas, on permet. Si ça blesse, oui, on ne permet pas. Ve Rabbi Yehuda demande à Gemara, maishna gabe chametz de gazar. Ou maïchnagabe kirtsouf de l'ogazar. Rabbi Yehuda, comment ça se fait qu'à propos de Chametz, donc finalement à la totale, on a vu que Rabbi Yehuda, à propos du Chametz, Rabbi Yehuda, il craint, il interdit de faire 14 Chametz une fois que l'heure est passée, il risque d'en manger. Tandis qu'à propos du kirtsouf, là-bas, Rabbi Yehuda avait dit, on ne décrète pas, on ne craint pas. Il a le droit de s'occuper de sa vache de manière à ce que ça ne va pas lui faire, ça ne va pas la faire saigner. Donc pourquoi finalement à propos de Chametz Rabbi Yehuda il est gozer, il interdit, à propos du kirtsouf Rabbi Yehuda n'est pas gozer, il n'interdit pas. Répond la Gemara. Lechem belechem michlaf, un pain avec un pain, ça se confond, tandis que kidur be kirtsouf le michlaf. C'est-à-dire qu'un homme, quand il mange à Pessah, et puis il mange traîner du pain, il risque d'en arriver aussi à se tromper et de manger son pain. Il est en train maintenant de s'occuper du pain. Il vient le brûler, il va le manger. Il ne fait pas la différence. Donc, il faut interdire le chametz, il faut interdire l'abdikat chametz après l'heure. Tandis que kidur bekirtsouf, d'utiliser ce pain-là ou celui-là, l'homme ichlav, ça ne se confond pas. Il sait qu'il doit faire attention de s'occuper de sa béma à ne pas, sans la faire saigner, mais il va faire attention, il ne va pas la faire saigner. Ici, Rabbi Yehuda ne craint pas, tandis qu'à propos de chametz, Rabbi Yehuda, il craint, oui. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est le même pain. Le même pain maintenant qu'il recherche, il risque de le manger. Tandis que là-bas, ce sont deux appareils différents, et donc là-bas, on n'a pas à craindre. On va permettre celui qui est permis, on va interdire celui qui est interdit. Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer, Ochlim kol chamesh vetorfin metrilat shesh. Rabbi Meir dit, on mange la cinquième heure et on brûle au début de la sixième heure. Donc ici, cinquième heure et sixième heure toujours, c'est à partir du matin. Si le matin c'est à 6h du matin, ça commence. Si le jour commence à 6h du matin, donc la 6h c'est midi, la sixième heure c'est de 11h à midi, il faut brûler au début de la sixième heure, ça veut dire à partir de 11h il faut brûler le chametz, et toute la cinquième heure, donc de 5 à 6, on peut encore manger le chametz. Pas de 5 à 6, de 4 à 5. De 4 à 5, c'est la cinquième heure. De 4 à 5, on mange. Et à partir de 5 heures, il faut brûler le chametz. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Ochlin Kolarba. Rabbi Uda dit non, il faut s'arrêter de manger une heure plus tôt. Donc, on mange toute la quatrième heure, de 3 à 4. Vetolin Kol Chamesh, on laisse le chametz de côté, on le suspend, on n'a pas besoin de s'en occuper. Toute la cinquième heure, donc de 4 à 5. Vesorofil Metrila Tchèche, au début de la sixième heure, on le brûle. Vedama Rabbi Uda. Shtechalot Shel Toda Psulot. Rabbi Uda dit encore, il y avait deux pains de Korban Toda. Le Korban Toda était accompagné de 40 pains. Et voilà qu'il y avait deux pains qui viennent avec le Korban Toda, deux pains de Chametz, Psulot, qui sont des pains Psulim, Munachot, donc ils sont Psulim, c'est-à-dire on ne peut pas s'en servir comme Korban, Munachot Al-Gaga Itztava, qui était posé sur les toits de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash. Il y avait des toits, des gens, des strates comme ça, en hauteur, et on marchait en dessous. Et donc sur ces toits-là, il y avait ces pains qui servaient en réalité de siman. Tant que les gens voyaient les deux pains, c'est l'heure où on peut encore manger du chametz. Nitla achat, un pain était retiré, tolin, l'ochrin, velosorfin. On laisse le chametz de côté, ni on le mange, ni on le brûle. Nitlushten, dès que les deux pains ont disparu, ont été pris, itrilu kolam sorfin, c'est le signe qu'est arrivé l'heure de commencer à brûler, donc tout le monde commence à brûler leur chametz. Rabban Gamliel Omer, chulin et chalin kolarba. Rabban Gamliel lui dit, dès chulin se mange la quatrième heure, ou truma kol chamesh, la cinquième heure, on peut encore manger du chametz de truma, afin de ne pas brûler la truma pour rien. Vesorfin metrila tchesh, et on commence à brûler, et on brûle au début de la sixième heure. Nanata. La Gemara maintenant va comparer notre Mishnah avec une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui, apparemment, n'a pas trop de rapport, mais finalement, la Gemara, comme d'habitude, elle va trouver le rapport profond de Mishnayot. Echad omer bishnaim bachodesh, vechad omer bishlosha. Deux témoins qui se contredisent. Un vient témoigner. Le 2 du mois, un tel a tué un juif, donc il est chayav mita. Il faut le condamner à mort. Vechad omer, le deuxième témoin, il dit, bishlosha. L'histoire s'est passée le 3 du mois, pas le 2, le 3. Edutan kayemet. Leur témoignage est bon. Il est valable. Pourquoi? Chezé yodé abiburo shel chodesh. Celui qui a dit le 2 du mois, il sait que le mois précédent a compté 30 jours. Vezé eno yodé abiburo shel chodesh. Celui qui a dit c'est le 3 du mois, il ne sait pas que le mois précédent comptait 30 jours. Il croyait que le mois précédent ne comptait que 29 jours. Et donc finalement, pour lui, c'était le 3 du mois déjà. Alors qu'en réalité, c'était encore que le 2 du mois. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux témoins. Leur témoignage est valable. Et Chadomar Bishlosha et Chadomar Bechamisha. Si par contre, il y en a un qui dit le 3 du mois, ça s'est passé. Le deuxième, il dit que ça s'est passé le 5 du mois. Donc finalement, il y a deux jours de décalage. C'est pas qu'un dit le 2, l'autre dit le 3. Un dit le 3, l'autre dit le 5. Et Doutan Betela, leur témoignage n'est plus valable. C'est une contradiction entre les témoins. On ne peut pas en faire un témoignage valable. Et Chadamar Bishteshaot, Chadamar Bishaloshaot. Si un témoin dit ça s'est passé à 2 heures, l'autre dit ça s'est passé à 3 heures. Toujours dans la Gemara, 2 et 3 heures, ça veut dire depuis le matin. Donc 2 heures, ça veut dire si le matin c'est à 6 heures, 2 heures c'est à 8 heures. 3 heures c'est à 9 heures. Et Doutan Kayemet. Leur témoignage est valable. Par contre, si Echadomer Bechalosh, Echadomer Bechamesh, s'il y en a un qui dit que ça s'est passé à 3 heures depuis le matin, donc à 9 heures, disons, et l'autre dit que ça s'est passé à 5 heures, donc disons à 11 heures, et Doutan, Betela, Divrei Rabbi Meir. Leur témoignage n'est plus valable selon Rabbi Meir, ils sont trop loin l'un de l'autre. 9 heures du matin et 11 heures du matin, c'est trop loin. Rabbi Uda Omer et Doutan Kayemet. Rabbi Uda dit, non, il n'y a pas de problème, leur témoignage est valable. Par contre, dit Rabbi Uda, Echadomer Bechamesh, Echadomer Becheva, si un témoin dit que ça s'est passé à 5 heures depuis le matin, l'autre dit que ça s'est passé à 7 heures du jour, et Doutan Betela. Là, le témoignage, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se tromper. Chez Bechamesh Rama Bemizrach, à 5 heures, le soleil est encore à l'est, ou Bechevach Rama Bemaharaf, tandis qu'à 7 heures du jour, le soleil est passé déjà à l'ouest, on ne peut pas se tromper entre 5h et 7h. Les gens, ils savent bien si c'est le matin ou l'après-midi, ils savent si le soleil est à l'est ou à l'ouest. Donc ici, il se trouve qu'on ne pourra pas dire un témoin s'est trompé, on va dire ils se contredisent, et s'ils se contredisent, le témoignage est annulé. Amar Abaye, Keshet Imta Lomar, lorsque tu vas approfondir ici cette marloquette, tu diras, les divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, En Adam Tov Eloklum, un homme n'a pas l'habitude de se tromper du tout. Donc quelqu'un qui témoigne, on ne tient pas compte du fait qu'il puisse se tromper. Il n'y a pas d'erreur. Les divrei Rabbi Yehuda, tandis que selon Rabbi Yehuda, Adam Tov Khatisha, un homme se trompe d'une demi-heure. Et la Gemara s'explique. Les divrei Rabbi Meir, En Adam Tov Eloklum, selon Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas du tout. Et donc on dira comme ça. Maase Kiyava, le meurtre quand il s'est passé, mais Mefaktarte Omael Tlat, à la sortie des 2 heures du jour et à l'entrée des 3 heures du jour. Et donc finalement, quand un dit 2 heures, un dit 3 heures, il n'y a pas du tout de contradiction, ni même d'erreur. Pourquoi? Veadeke Amar Shtaim, celui qui a dit à 2 heures, Besaf Shtaim, il veut dire à la fin des 2 heures du jour. Donc c'est quasiment à 8 heures du matin. Veadeke Amar Shalosh, celui qui a dit à 3 heures, il veut dire au début de la 3e heure, Betrilat Shalosh. Au début de la 3e heure, donc la 3e heure c'est de 8h à 9h du matin, le début c'est à 8h, à 8h01, donc finalement les deux parlent du même moment, à 8h du matin, ça s'est passé. Le meurtre s'est passé à 8h du matin, il y a un témoin qui appelle ça à 2h, parce que 2h sont passées depuis le début du jour, et l'autre qui appelle ça à 3h parce qu'on commence à 3e heure. Et là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, c'est un témoignage. Les divrei Rabbi Yehuda, par contre selon Rabbi Yehuda, Adam Toei Khatisha, un homme peut se tromper d'une demi-heure. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il va accepter un témoignage, même si les témoins, ils se contredisent de 2 heures. Comment ça se fait? L'histoire, quand est-ce qu'elle s'est passée? Le meurtre, il s'est passé, mais pas le gadarba au milieu de la 4e heure, donc à 3h30 depuis le matin. C'est-à-dire, disons, à 9h30 du matin. Vaide Kamar Shalosh, celui qui a dit que ça s'est passé à 3h du jour, Besof Shalosh, il veut dire à la fin de 3h, donc c'est 9h du matin. Vekata Ipalgadeshat Alekame, il s'est trompé d'une demi-heure en avant, donc finalement ça s'est passé à 9h30, lui il appelle ça 9h. Vaide Kamar Khamesh, le deuxième témoin qui a dit que ça s'est passé à 5h, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Betrilat Khamesh, il veut dire au début de la 5e heure. Donc finalement c'est 4h du jour, c'est-à-dire 10h du matin. Vekata Ipalgadeshat Alekame, il s'est trompé d'une demi-heure en arrière. Donc finalement, ça s'est passé à 9h30. Un, il appelle ça à 9h. Et l'autre, il croyait que c'était à 9h. Il appelait ça, donc, 3h du jour, 9h. L'autre, il croyait que ça s'est passé à 10h, une demi-heure plus tard. Et il a appelé ça à la 5e heure. La 5e heure. Parce que c'est le début de la 5e heure. Donc ça, c'est une manière de comprendre la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ika d'Amre, deuxième version. Amar Abaye. Keshetim Tsel Omar Abaye a dit, quand tu approfondis cette marloquette, qu'est-ce que tu vas dire? Les livrets Rabbi Meir, Adam Toema Sheou. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un tout petit peu. Les livrets Rabbi Yehuda, Adam Toesha Oma Sheou. Selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe d'une heure entière et encore un peu. Et donc, comment on va comprendre maintenant? La Gemara s'explique. Les livrets Rabbi Meir, Adam Toema Sheou. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un petit peu. Maase Ki Hava, le meurtre, quand est-ce qu'il s'est passé? Obesavstein Hava Obetrilat Shalosh. Donc Rabbi Meir qui a dit, un témoin dit 2 heures, un témoin dit 3 heures, c'est bon. Le meurtre s'est passé soit à la fin de la 2e heure, soit au début de la 3e heure. Vechad Minayu Toeb Mashéou, et un des deux témoins s'est trompé d'une minute. Donc ce qui s'est passé à la fin de la 2e heure, celui qui a dit 3 heures, au début de la 3e heure, il s'est trompé. Si ça s'est passé au début de la 3e heure, celui qui a dit 2 heures, c'est lui qui s'est trompé d'une minute. Le vrai Rabbi Yehuda, tandis que selon Rabbi Yehuda, Adam Toé Adam Shaou Mashéou. Un homme se trompe d'une heure et quelques. Et donc, Rabbi Yehuda, il dira que Maase Kiyava Obesof Shalosh Obetrilat Khamesh. L'histoire a eu lieu quand? Soit à la fin de la 3e heure, ou bien soit au début de la 5e heure. Nous, on ne sait pas. Mais on se dit que l'histoire a dû, apparemment, elle s'est passée soit à la fin de la 3e, soit au début de la 5e heure. Vechad Minayu Katae Shaou Mashéou. Et un des deux témoins s'est trompé d'une heure et quelques. C'est-à-dire que si l'histoire elle s'est passée à la fin de la 3e heure, celui qui a dit 3 heures, c'est bon. Celui qui a dit 5 heures, il voulait dire au début de la 5e heure, il s'est trompé d'une heure et 2 minutes. Et si l'histoire elle a eu lieu au début de la 5e heure, alors celui qui a dit 5 heures, c'est bon. Celui qui a dit 3 heures, il s'est trompé Il voulait dire la fin de la troisième heure, mais il s'est trompé de toute la quatrième heure, donc c'est encore une fois 1 heure et 2 minutes. Et donc, ici finalement, selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe de Sha'a ou Mashehu, 1 heure et quelques. Selon Rabbi Meir, par contre, un homme ne se trompe que d'une ou deux minutes, mais pas, on ne dit pas plus que ça. S'il y a une contradiction entre les témoins plus grande que ça, alors on va annuler le témoignage complètement. Selon Rabbi Yehuda, non, on va maintenir le témoignage en disant qu'un des deux témoins doit se tromper 1 heure et quelques. La Gemara dans le daf suivant va continuer à beaucoup raisonner autour de cette marloquette-là, et ensuite de comparer avec notre Mishnah, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.